Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, Contre-Histoire s'amuse. Ça devient urgent, vous croyez pas? Alors, Contre-Histoire s'amuse avec un personnage dont tout le monde a entendu parler et que les plus anciens ont entendu parler en vrai. Depuis un certain discours du 18 juin, que tout le monde prétend avoir écouté religieusement, jusqu'aux engueulades de 1968, où j'ai appris un mot nouveau, et pas joli, la chienlit. À l'époque, André Ribaud, dans Le Canard enchaîné, avait toute une page pour raconter à sa façon pittoresque ce qui se passait à l'Élysée et à Matignon. Il appelait ça « la cour ». Et pour donner un avant-goût des articles de cette page, un bandeau s'étalait tout en haut avec les caricatures de Moisan, magnifique et féroce, des principaux acteurs de la scène politique et culturelle française et mondiale. Le canard ayant le sens des traditions, aujourd'hui le bandeau subsiste, même si la page ne s'appelle plus « La cour », mais « La mare au canard » et s'étale sur 4 ou 5 pages. Les caricatures ne sont plus les mêmes, bien sûr, les vedettes ayant changé. Mais il faut reconnaître que la qualité des dessins est toujours là, même si, hélas, Cabu et Moisan n'y sont plus. Mais il est peut-être temps de vous lire les friandises littéraires d'André Ribaud. Je vous préviens que Ribaud s'amuse lui aussi énormément avec le vocabulaire du XVIIe siècle et la grammaire assortie. La page de podcast de cette émission traduira quelques perles anciennes de ces pages-là, succulentes, à mon avis. Et je le partage. Nous allons découvrir, d'abord, le roi. Le roi est un grand homme, de 6 pieds, 4 pouces, qui avait passé 70 ans, gris, avec peu de cheveux, mais beaucoup de nez, et énorme, creusé de rides, raviné de sillons, qui s'était augmenté considérablement par l'âge. Long. Il avait été maigre avant qu'assez de gros ne se mît à son estomac, jusqu'à lui faire la taille épaisse et fort tombée. La majesté de son air, qu'il voulait suprême en toutes circonstances, en eût été affaissé et abaissé sous l'habit militaire qu'il se piquait de porter dans les conjonctures les plus cérémonielles. S'il n'eût eu soin de procurer le remède par une ruse légale et singulière, dans les tout premiers jours de son second règne, il avait fait publier par Guillaume, lors son secrétaire d'État de la guerre, un règlement général prescrivant le retranchement du ceinturon de la garde-robe des officiers, afin de n'avoir plus à s'incommoder lui-même d'un objet qui démasquait et tout ensemble opprimait l'excès de son embonpoint. Sa physionomie promettait beaucoup d'esprit et n'était pas trompeuse. Le roi en avait infiniment. Très orné de lecture, châtié de grec, sachant mettre la plus brillante latinité au service d'un français pur, coulant, raffiné, mais que sa dissimulation naturelle lui persuadait de faire équivoquer, par calcul ou par goût, aux endroits les plus scabreux, dans tout le ménagement subtil des ombres et du clair-obscur. la parole aimait à s'assaisonner d'un sel fin, âcre, semé de poivre et de prouesses de mots, d'expressions mordantes, qui frappaient souvent par leur cruauté, quelquefois par leur justesse et toujours par leur singularité. Le débit était éloquent, facile choisi, habile à moduler dans une pompe et une autorité séductrice les dissertations les plus savantes, mais qui pouvaient se relâcher soudainement en platitude, en non-sens, en roture de style, en grossièreté, de tours les plus exécrables. Et il était surprenant alors d'entendre tomber d'aussi haut des propos aussi bas. Peu de grâce au maintien, mais un visage noble, quoique rechigné, hautain. L'œil, fort court en vue, était d'un rond étrange comme celui d'un éléphant, sous de pesantes paupières, au milieu d'un cerne profond et noir, semblant toujours goguenarder le restant des humains, quand il n'était pas simplement éteint par l'indifférence ou l'ennui de les devoir regarder. Il ne s'allumait, mais alors s'embrasait, que de cette passion de soi-même, qu'elle fût orgueil, colère, jouissance, qui consumait le roi, car c'était un homme uniquement personnel, et qui ne comptait les autres, quels qu'ils fussent, que par rapport à soi, prêt à hasarder mille fois l'état pour son unique grandeur. Rien dans cet œil qui marqua jamais la bonté, la tendresse, la pitié, même la simple considération d'autrui. Entiché d'humanité, le roi était fort peu embarrassé d'humain, et les entraînements de son cœur le laissaient toujours éloigné des lieux dont les mouvements de sa rhétorique, par parade, par politique, l'approchaient quelquefois. Sa gloire, sa vanité, car ce sont deux choses, était en lui au plus haut point. Sa politesse était extrême, mais pour s'en faire rendre autant, se prenant aux louanges, aux déférences, aux ovations, avec les dernières faiblesses. Toujours sur les échasses pour la morale, l'honneur, la plus rigide probité, les sentences et les maximes, toujours le maître des conversations et des compagnies. Il parlait beaucoup, et beaucoup trop, mais si agréablement qu'on lui passa longtemps ses débordements de discours. Avec cela, secret, grand combinateur de stratagèmes et d'artifices dans les alambics impénétrables de son esprit, ténébreux, avec le goût de l'être supérieur, particulier, et par hauteur difficile à apprivoiser, mais aisé, quoi qu'on crût, à fléchir sur quantité de matière considérable, pourvu qu'on ne fît pas semblant de lui voir mordre à l'hameçon qu'on lui tendait. Inexorable sur les bienséances et les bas détails, il ployait souvent sur les grands intérêts et l'essentiel même de ses états. Sous un extérieur de constance, il se montrait changeant sur l'important, car il n'était pas moins irrésolu qu'obstiné, cachant le flexible du roseau sous l'écorce du chêne. Tranchant avec superbe, un jour pour, un jour après, retranché, avec plus de superbe encore, et dans l'apparence, l'affectation de la rigueur la plus continuelle. Cette chimie engendrait les plus violents désordres, On le vit bien dans les affaires barbaresques et toutes les autres principales de son royaume. Seules ses haines étaient authentiquement irréfragables, comme sa bonne opinion de soi était inentamable. Même s'il se roidissait à paraître s'en départir, il ne s'en dépouillait jamais entièrement. Peut-être faisait-elle le roc de sa vie. Car à le bien sonder, on ne lui découvrait aucun vrai dessein d'État, aucune vaste philosophie qui méritasse de lui survivre et de fonder solidement sa renommée dont il était si anxieux dans les siècles à venir. Il régnait, par désir de se faire sentir à tout et à tous, du dedans comme du dehors, animé davantage de la fureur d'étonner et de foudroyer les humains que de l'application de les gouverner et de les relever. C'était un prince au fond très malheureux. Sous le masque de l'impassible, qui s'aigrissait à proportion qu'il semblait s'apaiser, abusé de soi-même autant que désabusé des autres, lassé du monde sans être dépris du trône, borné dans son pouvoir à mesure qu'il était augmenté dans son arbitraire, redouté en tout, obéi en rien. Il avait cru être né pour commander à l'univers. Il n'était pas le maître de son royaume, ni même de sa cour. Et il sentait bien qu'il allait abandonner ses peuples les plus déchirés, diminués, meurtris, qu'il ne les avait trouvés. Car s'il avait la mine d'un grand roi, il n'en avait pas le jeu. Peut-être avait-il l'étoffe d'un grand capitaine. Il ne le fut que dans des livres. S'il était contraint, ce n'était jamais par ses ministres, car il les comprenait dans le mépris universel. Un gentilhomme lui ayant déclaré sa surprise qu'il en eût mis un dans son conseil, dont l'indignité était publique, le roi lui répondit en se riant : « Monsieur, Dieu le Père ne fit-il point l'homme avec de la boue ?» Sa mémoire était prodigieuse, terrible, aussi prompte que sa plume était lente, car si le roi souffrait d'écrire, il se jouait d'apprendre et de retenir. Un courtisan lui dit un jour qu'elle était aussi extraordinaire que celle de Poincaré.
« De Bossuet, monsieur, » corrigea le roi avec sévérité.
Elle nourrissait les vindictes que les années mûrissaient, comme on l'aperçut par la catastrophe de Signoret. Ce Signoret avait été en 1940 un des principaux de l'État et des conseillers très affidés du comte Reynaud, lors premier ministre, dont il était le chef des secrétaires. Le roi, qui ne l'était pas encore, n'avait en ces temps que le brevet d'un régiment, quoiqu'il se donnât ordinairement des airs de connétable. Il avait néanmoins captivé le comte Reynaud. Un matin, au plus sombre de la guerre d'Allemagne, et quand tout ce qu'il y avait de Prussien se ruait sur Paris, le roi entra chez Signoret. « Monsieur, dit-il, le comte Reynaud, votre maître, m'a déclaré sous-secrétaire d'État de la guerre. Où est donc mon bureau ?» Ce ton interloqua fort Signoret, qui n'eut pas même à répondre. « Monsieur, reprit le roi, votre bureau m'agréerait fort. Je le prends. » Signoret n'était point accoutumé qu'on lui parlât avec ses airs de hargne, de grogne et de rogne. Il se mit incontinent sur ses ergots. La dispute fut forte. Des mésaises, on en vint aux humeurs, puis aux plaintes, après aux calomnies et enfin aux insolences. Le roi fut chassé. Les désastres de la campagne allaient tout rompre. 3 années coulèrent. S'étant échappé de l'ennemi, Signoret franchit les Pyrénées, arriva en Espagne et de là en Alger, où le roi venait de vaincre enfin Giraud et d'établir solidement sa maison. Il prétendit aussitôt une audience pour offrir son épée. On lui fit languir la réponse, plus de 10 jours, pour l'humilier par un rebut. « Vous n'aurez point d'audience du roi, monsieur. »«
Et quoi ?»«
Le bureau, monsieur. » S'ignorait quoi alla aux armées, s'y battit en Italie, ailleurs. Le bon succès des armes ramena le roi et la cour à Paris. Fort peu après la victoire, une quantité de personnes de qualité et qui avaient porté le mousquet furent proposées au roi pour être nommées à l'ordre. Il allait toutes honorer, quand son œil senta, se figea, se courroussa sur un nom. Signoret. Il raya avec rage. Le bureau. L'abdication du roi éclata un continent après, et son exil, qui allait se prolonger 12 ans, délivra Signoret de sa disgrâce. Par la faveur du comte Reynaud, il trouva un emploi dans ce parlement croupion qui opinait parfois sur les affaires des colonies, et en eut bien de l'aise. Mais l'an 1958 restaura le roi et destitua tout d'un temps ce parlement croupion qui fut jeté hors des constitutions du royaume. Le roi fut néanmoins généreux, magnanime, débonnaire, refournissant de charges dans une chambre des corporations tout ce qui avait eu un office au parlement croupion. Tout, même ce qui avait été le pire ennemi de son retour. Tout, hormis un seul, qu'il retrancha d'un trait d'une fureur suprême. Le bureau. Ce seul était Signoret. Puisque nous avons découvert le roi, et peut-être identifié, nous allons voir comment le roi régnait. Septembre 1960 finit par une chaleur subite du roi contre l'ambassadeur de Tunis, qui se tourna en rupture. Ce plénipotentiaire était venu au palais porter au roi un billet très personnel du bey, son maître, qui était aussi son père. Quoiqu'il n'eût pas été désabusé de cette visite, il fut refusé sèchement à l'audience et uniquement reçu par un subalterne qui lui marqua que le roi ne le verrait pas, jusqu'à ce que son propre ministre à Tunis eût obtenu pleine et entière réparation d'un affront de mur dont il avait été incommodé dans son hôtel et outragé dans son honneur, et qui avait fait toutes sortes de bruits et d'émotions dans cette ville capitale. Suffoqué de colère, l'ambassadeur quitta un continent Paris et sortit du royaume. Il avait eu pourtant, fort peu avant, des entrées libres à l'Élysée et des mots familiers au roi, même fantasques. Un jour de l'été, l'ayant mandé pour le sonder et le tâter, puis le démêler et le feuilleter sur le bec, le roi l'avait abordé, juste introduit dans son cabinet par cette interrogation fort abréviative, mais à interloquer. « Eh bien, Bourguiba, papa ?» Cela dit, en plissant les paupières et en remuant une main de droite puis de gauche, avec un air de scapin. La surprise, quoique entendue de l'ambassadeur, fut ce qu'il y a de plus délicieux. Ce même mois vit exilé Salan d'Alger, où il s'était retiré après l'achèvement de sa disgrâce et le commencement de ses complots. Cet officier général n'avait pas craint de parler publiquement contre les desseins barbaresques du roi et de le reprendre sur sa harangue du 5 septembre au gazetier. Tant et de si insolente mandarinade ne pouvait pas être plus soufferte que jadis les mazarinades. Par ordre du roi, Salan fut chassé d'Alger par Monsieur de Louvrier et militairement châtié par Mesmer, secrétaire d'État de la guerre. Par sa sédition de 1958, Salan avait considérablement rapproché le roi du trône et procuré sa restauration. Quoi qu'il l'eût fait contre son inclination, même contre sa volonté. Ce bonheur n'avait pas relâché leur haine, qui avait toujours été homogène et réciproque. Même il l'augmenta. Le roi pardonnait rarement à qui l'aima, jamais à qui l'aida. Il soustrait de la prétention de Salan de politiquer et de retrancher la vice-royauté des provinces barbaresques de l'autorité royale. On n'était pas manque impunément avec lui, car il n'était pas Charles II. La perte de Salan fut résolue. Il fallait l'ôter d'Alger. Mais le roi n'était point encore assez affermi pour ruiner Salan tout d'un temps et avec superbe. Il fallait l'environner de chimères, l'entêter, l'abuser, lui persuader de se jeter lui-même dans les filets. Tout le génie des ruses du roi éclata dans ses routes profondes. D'abord, par des propos noyés de brume, il fit miroiter à Salan le bâton. Puis il lui fit dire qu'il le voulait à sa cour, près de lui, qu'il comptait l'établir comme un prince très principal, dans un commandement considérable, dont il n'y avait pas encore d'exemple, qui le ferait le maître, directement sous lui, de toutes ses armées, où que fussent leur garnison et leur camp. En France, en Barbarie, dans les États dépendants ou alliés de l'Afrique, et jusque dans les possessions les plus lointaines au-delà des mers. Soyez, monsieur, l'inspecteur général de mes défenses. Le tableau était peint en couleurs si riantes que Salan y courut. Pour vous marquer le haut degré de mes bontés, lui annonça le roi, je vous logerai dans ce palais, chez moi. J'ai donné mes ordres pour qu'on vous y fournit d'appartements et de meubles. Ils seront bientôt exécutés. Allez, monsieur. Salan répondit par mille grâces, mais ne se put retenir de confesser au roi une mésaise. Il n'avait point de logis où s'établir à Paris, avant qu'il pût se mettre dans ceux de l'Élysée. Le roi fit semblant d'en avoir de la compassion. « Mais je crois que Guillaume en a assez d'esprit, dit-il, pour faire vaquer les appartements du gouverneur militaire de Paris en l'hôtel des Invalides. Établissez-vous-y, prenez aussi son cabinet. » Salan était enfin dans les nasses du roi. Fort peu après, un grand édit de réformation des armées supprimait l'emploi d'inspecteur général des défenses. Un autre déclarait publiquement Salan pour le gouvernement militaire de Paris. Le malheureux en resta étourdi et chamarré de ridicule. et se plaindre d'être incommodé de la dérision d'une fonction dont il s'était si bien accommodé des logis. C'était une fonction uniquement cérémonielle, de parade et de parure, et de nulle efficace ni autorité d'aucune sorte. Salan y rongea son frein, 1 an et demi. Vint enfin le temps où les atteintes de la vieillesse et le règlement sur l'âge allaient lui faire songer de quitter l'armée. Le roi eût pu l'y forlonger encore. Il ne le voulut pas. Il descendit seulement à l'inviter à sa table, au petit couvert, le jour du commencement de sa retraite, avec les autres principaux de l'armée. On but d'abord de quelques rafraîchissements dans le salon des ambassadeurs, puis à 1h05, selon sa coutume, le roi se leva et commanda d'une voix forte « Formons le cortège !» Et le voilà à donner son bras à Madame la Générale Salan. Maître de la conversation, il l'a mis sur des riens militaires, et pas une fois sur les affaires barbaresques, comme pour marquer le peu de cas qu'il faisait des avis de Salan. Ce mépris fut senti. Ils se saluèrent dans une surabondance de politesse contrainte, mais il flottait autour de leurs deux têtes une odeur âcre de détestation. Ils ne devaient plus se revoir. Jamais. Environ ce temps-là, il fut fait grand bruit d'une libelle des 121, signée par quantité de gens de lettres, de théâtre, de Sorbonne, quelques-uns même de qualité, et qui aigrissait la cabale contre la guerre barbaresque. Il s'en fallut peu que ce libelle ne fût placardé sur la porte du roi. Le premier ministre voulait embastiller sur le champ toute cette canaille écrivante. Le roi l'en désabusa et philosopha au conseil d'en haut sur la nécessité de donner un peu de fil aux gens de plume dans une monarchie qui se piquait de despotisme éclairé. Il n'en parut pas moins fâché d'apprendre que Madame Christiane Rochefort était de la faction des libellistes. Cette dame avait écrit naguère un roman, Le repos du guerrier, dont la vogue l'avait atteint. Un soir de 1958, qu'il dînait avec ses conseillers à l'hôtel Matignon, où il avait encore sa cour et qu'il y avait assez de femmes à table, le roi, abordant l'une, la baronne Guichard, lui demanda si elle avait lu ce roman et si elle en pensait du bien. Le rouge d'un peu de honte s'alluma sur le visage de la baronne. Elle avoua en effet avoir lu le livre et qu'elle lui donnait une extrême approbation pour le romanesque, mais que le thème en était fort salé et qu'il y entrait bien de la licence, du scabreux et même du libertinage. Le roi s'en allécha et dit d'un air fort gaillard « Pourquoi ne me fait-on lire que des ouvrages mornes et plats et sans épices ? Ayez assez de bonté, madame, pour me faire porter ce livre. » La baronne le promit. Plus d'une semaine après, un courtisan rencontrant le baron Guichard voulut savoir si le roi avait eu son envoi. « Dieu m'en garde, répondit le baron, j'ai défendu à la baronne de le faire. Si ce livre impie fut tombé entre les mains de madame de maintenant, j'étais perdu, à jamais, ma disgrâce consommée. Car sachez, monsieur, qu'il est moins dangereux dans cette cour de désobéir au roi que de déplaire à madame de maintenant. » Madame de maintenant était la femme du roi. C'était une personne sans naissance, d'un visage guindé, sévère, sous des traits encore lisses, même frais, où s'imprimaient infiniment de vertus, mais assez peu de bonté, serrant toujours sa haïre avec sa discipline. Elle était fort experte dans l'alchimie des marmelades, plus habile encore dans la réduction des pêcheurs. Elle passait sa vie dans les exercices de piété les plus édifiants et les plus continuels. Elle avait l'âme austère et pénitente, et elle eût envoyé toute la cour accomplie. Elle régnait sur le palais avec un empire craint de tous et redouté de toutes. Elle n'y voulait ni jeunes gens de traverse, ni dames de moyenne vertu. La boue infecte de l'adultère lui faisait horreur, et il ne fallait pas qu'on s'avisât d'extravaguer loin des lisières du sixième commandement de Dieu. Régnait-elle sur le roi, elle ne l'entreprenait pas sur les pensées. Elle l'entama plus d'une fois sur le domestique. Elle gouverna souvent le flux et le reflux de ses faveurs. Elle était bien informée par des agents de l'intérieur le plus intime de la cour. Combien furent ruinés par un mot d'elle. Tout à l'Élysée sentait son aiguillon. On ne vit rien de si court en robe que l'année de la Restauration. Les drapiers, les tailleurs et tout ce qui fait les modes abrégèrent les étoffes jusqu'aux frontières des genoux. Les bornes de la décence étaient franchies. Madame de Maintenon s'en outra et prétendit y faire pallier souverainement par des édits. On lui marqua que les franchises traditionnelles de ce royaume, quoique diminuées, exemptaient encore les modes de l'autorité royale et que le fil de l'aiguille ne pouvait être contraint par le fil de l'épée. Madame de Maintenon prit alors le sentier et fit tenir au prévôt des corporations couturières qu'ils auraient des remises et des modérations de taxes s'ils voulaient augmenter les étoffes jusqu'aux entours des mollets. Ils ne le voulurent point. Las, combien il était dommageable pour le royaume qu'étant bagatelle de ciseaux, les modes ne fussent point objet de censure. La femme du secrétaire d'État des Affaires étrangères, Madame de Couve de Murville, qu'on appelait familièrement Couvette, allait bientôt se ressentir du dépit de Madame de Maintenon. Un soir de fête, elle s'approchait du roi pour lui faire sa révérence, quand Madame de Maintenon la glaça d'un regard, puis d'un mot sec, la figea sur sa robe qui était brève, pour être fort au gré des gens du meilleur air. Que vous voilà, madame, étrangement coqueluchonnée. Vous croiriez-vous encore au temps de Madame Coty? Madame Coty, épouse de René Coty, qui fut le dernier président de la 4e République. Octobre commença par un voyage du roi en Dauphiné, qui fut la désolation de la cour. Cette province, contrairement à toutes les autres du royaume, ne montra qu'un zèle amolli, et le roi, quoiqu'il se roidît à ne point le paraître, en ressentit extrêmement de l'humeur. Il avait donné à sa visite un air de suprême grandeur, s'étant fait porter, avec un gros accompagnement, jusqu'à son château de Vizille, qu'il avait fait relever et orner coûteusement pour y dormir avec Madame de Maintenon et y avoir, le lendemain, une grande, bonne et fort longue table. Cette montre de splendeur et de superfluité, quand tant de nécessaires manquaient au plus grand nombre, déplut et fit jaser, puis bouder. Quand le roi entra dans Grenoble, au lieu de foule tenant 3 lieues d'étendue, il ne trouva pour l'acclamer que des gens clairsemés, et pour l'ouïr que 6 000 habitants sur les 140 000 âmes que peuplait cette cité. Pas même 150 des 500 échevins de la province ne le vinrent saluer. Oh, l'insolente contrée ! Dans la suite du roi, la surprise était peinte sur tous les visages, et l'indignation sur plusieurs, qui se tourna en douleur quand on apprit que le peu de bonheur de ce voyage était su et chansonné à Paris, avec une licence qui ne pouvait être contenue. Outrés de dépit, les ministres et les conseillers arraisonnèrent tout ce qu'il y avait de gazetier pour les supplier de cesser d'être la proie d'un horrible mirage, d'un abominable songe. Ils ne se devaient imaginer ni dire, surtout écrire, que le roi n'était pas aimé de tous ses sujets. Les plus pressantes raisons de gloire et d'état l'interdisaient. Le pis à regarder était le pauvre Raoul, intendant de cette province, qui n'avait pas eu le soin d'en exciter l'empressement. Il se multipliait à répandre que les peuples du Dauphiné étaient de coutume très singulière, s'appliquant à montrer leur dos quand ils entendaient publier leurs ailes et à déclarer leur ferveur par un redoublement de leur froideur. C'était un fort rude emploi que celui d'intendant. 6 mois avant, Hirsch, intendant de Normandie, avait failli être ruiné par une espièglerie de son fils. Il avait eu ordre de traiter et de loger, avec les plus belles marques d'honneur, dans son hôtel de Rouen, le tsar Nikita de Moscovie, qui lors voyageait dans le royaume. Le tsar était tout comme de pénétrer dans ses appartements quand un serviteur aperçut sur la table un court billet qui avait glissé en tapinois le fils du baron Hirsch et qui était monté en farce. « Le premier qui lira ce billet est un fort gros sot !» Ce n'était que le tsar, et à Rouen, si c'eût été le roi, et à Grenoble. Mais Raoul n'eut pas besoin d'une pareille bévue pour voir consommer sa disgrâce. Peu de mois après, il lui fut prescrit de se retrancher lui-même du corps des intendants s'il ne voulait point en être chassé honteusement par ordre du roi. Châtenay, ministre des Affaires du Dedans, eut un air très malheureux pendant cette chevauchée dauphinoise. Le 3 octobre, des vétérans réformés des armées s'étaient assemblés sous l'Arc de Triomphe. Des meneurs séditieux les avaient animés contre le roi et ses desseins barbaresques. Il s'amassa toute une meute qui emplit les Champs-Élysées par des clameurs de malhonnêteté et la confusion. Les exemples ployèrent. Il y eut un petit désordre dont le clapotis vint battre jusqu'à l'Élysée. Cette populace ne fut repoussée qu'aux barrières du palais. Le roi en suffoqua de fureur. Il manda Châtenay, le réprimant le plus sèchement du monde sur le relâchement de sa police. « Sire, répondit Châtenay par excuse, ce n'étaient que des enfants qui s'écriaient contre vous. « Eh bien, monsieur, en fait d'exemple, envoyez-leur une autre fois des nourrices s'ils recommencent à s'écrier contre moi. » Le mot fut si cruel qu'il n'eut point de répartie. Le roi n'en eut pas souffert. Il s'emporta pareillement contre les maréchals Leclerc et Delattre de Tassigny, qui n'avaient pas eu honte de s'agglomérer à la meute des vétérans. Qu'avaient donc ces deux glorieuses à se faire voir à l'Arc de Triomphe ? Là-dessus, le roi récita un apophtegme enfoui dans sa vaste mémoire et qu'il avait emprunté de l'historien grec Thucydide. Quand la guerre du Péloponnèse fut finie, un orateur athénien harangua le peuple sur l'agora. Puis, s'adressant aux veuves des guerriers tués au combat, il leur dit « Et vous, les veuves, il vous reste la douleur et la gloire. Sachez que votre gloire sera d'autant plus grande et plus durable qu'elle demeurera plus silencieuse et plus recluse. » Les maréchales devaient l'avoir su. Et il leur fit secrètement prescrire de s'abstenir de tout geste à l'avenir, de toute parole libre sur ces affaires barbaresques. Que s'il était désobéi, il se tiendrait pour obligé, quoiqu'en s'affligeant, de les destituer de leurs douaires et des faveurs et des pensions pécuniaires adjacentes. Le roi revint du Dauphiné et des anciens états de la maison de Savoie où il était passé ensuite pour recevoir à sa cour le roi Siamois et la reine Sirikit, qui étaient belles et faites en déesse, avec des yeux brillants comme escarboucles. Quoique ces princes d'Asie fussent d'une maison de fort peu de lignée et de renommée, le roi les fêta pendant 3 jours, avec dépenses et fastes. On murmura que ses ministres voulaient obtenir du potentat de Bangkok un avantageux traité sur les matières d'étain et des mines, et que c'était là tout le pourquoi de ces divertissements. Le roi eut pour la reine Sirikit une galanterie prodigieuse. Il avait failli attendre, que dis-je, la reine le fit positivement attendre un demi quart d'heure avant d'aller à l'opéra. Quand elle arriva, désolée de confusion, elle voulut se jeter à ses pieds pour implorer son pardon. Il l'arrêta avec ce compliment si rarement émané de lui. « Ce fut un plaisir pour moi, madame, d'attendre une aussi jolie personne que vous. » Madame de Maintenant le foudroya d'un regard. Ce même mois, le roi forma le projet qui allait finir, enlisé et sans accomplissement, de venir haranguer lui-même son parlement dans le grand appareil des lits de justice. Ce dessein parut peu goûter des parlementaires, moins encore du premier ministre, M. Debré, qui l'avait appris un matin en ouvrant les gazettes, sans que le roi lui en eût rien dit. M. Debré, qu'on appelait ordinairement « Monsieur le prince qui nous gouverne », était un homme d'une taille médiocre, assez boudin de figure, l'œil enfoncé, la mine basse, le cheveu noir, fort garçon d'ordre, avec une sorte de raideur, pour qui des riens continuellement étaient des hydres, le propos moral et sentencieux, l'air plein de sévérité, et à se faire craindre des plus humbles à proportion qu'il était lui-même plus bas, devant le roi. On l'avait cru longtemps un alaisan, tout de ruade, et qui resterait indomptable. Il n'était, au vrai, qu'un cheval, d'aucune race, bon à tirer tous les attelages, à être batté de toute charge, à aller n'importe quoi, jusqu'au bout des chines, pourvu que le roi, mais le roi seul lui fit sentir rudement le bridon et le fouet. Monsieur le prince était né sujet. Il portait le titre de premier ministre du roi. Il n'en était authentiquement que le dernier secrétaire. L'approchement de la Saint-Magloire le 24 octobre aiguisa la déraison des Godenaux. Les voilà tous à se mettre sur leurs pieds d'impertinence, à répondre que ce jour-là serait celui de la fête publique du roi, et l'un d'eux, fort petit poète, a troussé, dans le goût ancien, ce huictin et a l'intitulé « De moi-même », comme si le roi l'avait rimé de sa main propre. « Plus ne suis ce que j'ai esté, aujourd'hui, c'est la Saint-Magloire, Féo, les jours me sont comptés dans mes mémoires. Je fais lever de la victoire, messieurs, la France continue. Debré vient nous servir à boire, vive ma gloire, le roi au nu. » Le roi en fut-il aise? On dit qu'il fut piqué d'une insolence de l'almanach le lendemain de la Saint-Magloire, étant celui de la Saint-Crépin, qui est la fête du prince Pinet de la Tannerie, jadis fort homme de cuir. Un courtisan osa prononcer par dérision que le roi devrait bien s'emparer de cette conjecture pour faire de monsieur de la Tannerie grand cordonnier de la Légion d'honneur. Le roi ne sourit pas de cette saillie. Le nom seul de ce personnage, qui avait prétendu la dignité de dauphin avant d'être culbuté par la disgrâce et déclaré illégitimé de France, le laissait assombri, irrité. En 1952 déjà, il avait refusé de procurer la gloire qui commençait de pointer, de Pinet de la Tannerie. « Je n'ai pas sauvé la France pour ce monsieur », avait-il jeté orgueilleusement. Après sa chute, monsieur le faux dauphin s'était retiré de la cour et en apparence éloigné de ses affaires, écarté des brigues, des coteries, des factions. Mais quoiqu'il ne fît pas semblant d'être à coquiner à quiconque, le roi le surveillait. « Il ne bouge pas, mais je sens qu'il chemine, » disait-il. Comme disait autrefois Louis XVIII de celui qui allait renverser sa maison et devenir Louis-Philippe Ier. Il savait bien que l'ambition de monsieur de la Tannerie n'était pas assoupie à jamais, que le plus petit Brandon la rallumerait. La science de feindre de ce personnage n'était pas au-dessous de celle du roi. Elle était néanmoins quelquefois surprise. Un soir de ce temps-là, un gentilhomme qui avait servi autrefois monsieur le faux dauphin soupait à sa table. On politiqua sur le futur. « Vous serez bientôt le maître. Le règne du roi est sur son couchant, » dit le gentilhomme. « Monsieur, il faut vous préparer. » « Monsieur, » répondit Pinet, comme au plus aigu de son courroux, « je ne sortirai point de ma retraite. Je suis vieux, perdu de lassitude et de douleur. Brisons-la. » On brisa. La conversation se mit sur des bagatelles. On prit un peu de liqueur, de tabac. Le gentilhomme fit sa révérence. On allait prendre congé. Et quand je serai le maître, je relèverai, moi, les libertés et les franchises traditionnelles de cet État, lança joyeusement dans la nuit monsieur de la Tannerie en refermant la porte.
Thank you.
Merci de votre écoute. Et à très bientôt. Prenez soin de vous.